18h, 20h, Fou de Sport, avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Bonsoir, ravi de vous retrouver en ce dimanche 3 juillet 2022. Je me dis des fois, oh ça y est, c'est la haute saison, là, c'est les vacances, il n'y a plus rien à faire. Et donc, on va se faire en mode veille pendant 2 mois. Mais vous rigolez, il n'y a pas de... De toute façon, chez nous, c'est simple. Ce mode veille, oublions-le. Bon, mis à part la parenthèse de dimanche prochain, où je vous le donne en mille dès maintenant, c'est la fête de l'Al Kibir sur samedi dimanche. Donc, dimanche prochain, il n'y aura pas d'émission. Mais, attention, mais il y a toujours un mais chez nous. Le retour de Foot de Sport aussi, le 17, pour une grande émission consacrée à un très grand club. Parce qu'on va mettre tout à plat avec les protagonistes. Ce club, bien entendu, c'est la JS Kabylie. Ce sera pour le 17 juillet prochain. En attendant, pour ces 2 heures, je vous ai concocté foot, volley, rugby, rallye, découverte du désert, jeu méditerranéen, rugby. Comme on dit chez nous, la hala totale. Et ceux qui sont partis en vacances également reviennent en forme. Ils reviennent aussi de manière un peu plus affinée. Un peu plus zen, c'est normal quand vous voyagez. Je vais commencer à les saluer un par un. Alors le premier, il est juste sur ma gauche puisque bon, il s'est absenté de petites semaines, c'est pas méchant. C'est Sofiane. Salut Sofiane.
Salut Momo, comment vas-tu?
Ça va toi?
Ça va impeccable. Hein.
Alors, ça t'a fait du bien là hein?
Ah, ça m'a fait du bien, j'ai bien décroché, je vais pas te mentir.
Ça se voit.
Ouais. J'ai vraiment décroché le...
Et je te voyais même pas sur les réseaux.
Ah, je te jure, à part sur Instagram un petit peu les photos.
Tu oui, vois. Mais je veux sinon, dire que dans la discussion ouais. genre WhatsApp ou tout ça, tu n'y étais pas.
Je te jure que l'actualité foot, je me suis reconnecté là. J'ai vu un peu les débats à Christophe Galtier, machin, pour les débats français.
Oui.
J'ai vu la cérémonie d'ouverture des Jeux Méditerranéens là où j'étais. Mais sinon, j'ai complètement décroché de toute cette tambouille footballistique sportive, quoi, tu vois. Mais bon, c'est bien, faut revenir à la réalité aussi. Et puis... voilà quoi, tonton Momo, quoi, tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Il se retrouver seul. Oh.
Eh ben non, mais justement, je ne me suis pas retrouvé seul. De toute façon, je vais y arriver au fur et à mesure.
Ah, oui.
Et puis, à un moment donné, je me suis dit, un jour peut-être. Et finalement, ce jour est arrivé, je ne sais pas, 6 mois plus tard, eh bien, elle est de retour parce que je l'ai contactée, bien sûr que je serai présente. Et qui dit retour dit émission filmée. De toute façon, à la rentrée, on verra ça avec un peu plus de détails. C'est le grand retour de Noël que je salue. Bonsoir Noël.
Bonsoir Mohen, bonsoir à tous. Ben, ravi de vous retrouver après 6-7 mois, hein, parce qu'on était là il y a 7 mois. Hein. J'étais là il y a plutôt 7 mois. Donc c'est un grand honneur de revenir à l'émission et de repartager cette émission avec vous tous.
Très bien, Noël. Et puis maintenant, il ne faut pas l'oublier également, c'est que pendant ces fameuses parenthèses enchantées signées Sofiane et le coach, que nous allons voir tout à l'heure au téléphone, eh bien, il fallait bien que l'émission se déroule. Et dans cette émission, on a retrouvé un jeune journaliste, un peu de la génération à Sofiane, je dirais quasiment, deux ou trois années près, mais on va dire c'est la même génération, c'est Fodil, que vous entendez tous les matins chez Kim.
Exactement, chez Kim, avec Mona aussi.
Oui, bah oui. Bon, coucou Mona.
Bonjour Mohan, bonjour à toute l'équipe, bonjour à nos auditeurs. C'est toujours un plaisir d'être là chaque dimanche. Je prends beaucoup de plaisir à être avec vous et c'est un pur plaisir et tout le plaisir est partagé ensuite.
Et en plus, ce qui est d'extraordinaire dans cette émission, c'est que il y a eu également entre-temps Boula qui a passé un peu de temps avec nous. Peut-être qu'il a oublié la suite des événements, mais bon, c'est pas grave, je lui en veux pas. De toute façon,
peut-être déjà son calendrier aussi.
Oui, souvent. Et là, on est en période de mercato. Je pense que notre ami Boula doit être débordé.
Exactement.
Bon, alors on va commencer, si vous le voulez, par un premier sujet. C'est ce qu'on appelle un flash tout chaud. Ça fait partie directement de cette actu de la semaine sportive.
Fou de sport. Fou de sport. La semaine sportive. La semaine sportive.
Bon, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais on l'a su hein, cet après-midi. Le report de la CAN 2023. J'ai dit, chaque année, on nous trouve une excuse de. Report.
En gros, on avait signalé aussi la semaine dernière.
Oui, oui, on avait déjà signalé, il faut dire. Mais là. Oui, pardon, Sofiane.
Je dis que c'était des rumeurs qui se sont confirmées cet après-midi par voie de presse.
Oui, attends, Sofiane, mets-toi bien dans ton micro. Hein.
Ouais. Oh, oui, oui. Est-ce que c'est bon là?
Oui, oui, vas-y.
Non, je te disais que c'était des rumeurs qui se sont confirmées.
Nous, on a parlé la semaine dernière.
Ouais. Tu vois?
Ouais. Alors pourquoi je te dis ça? C'est parce que tout simplement. Chaque année, on se retrouve dans un, passez-moi l'expression, un merdier africain qui ne dit pas son nom, mais moi je le dis ouvertement, à chaque fois, une excuse, un report, problème de, d'organisation, problème d'infrastructure. Mais c'est pour quand? Ben, je ne sais pas moi. Déjà là, ok, on reporte. Mais que vont faire les Guinéens à qui on a promis la CAN 2025, enfin, qui à la base était promise en 2023. Attention, hein, c'est juste qu'on a décalé dans le temps. Hein. Si on prend les trois cannes que Hayatou avait données en package à trois pays africains, à savoir le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Guinée, on était censé finir ces trois compètes en 2023. Ok, il y a Covid, j'avoue. Et après?
Là, le problème qui se pose, c'est que, pas spécialement que le calendrier, mais les raisons du report. Parce que quand on écoute les déclarations du président de la CAF, qui invoque des conditions météorologiques, il faut vraiment se poser la bonne question. Est-ce que c'est à cause de la pluie? Est-ce que c'est à cause des infrastructures qui ne sont pas encore prêtes? La question reste posée.
Bah tiens, je vais poser la question à Sofiane. D'après toi, cette histoire de report, est-ce qu'elle ne va pas avoir, un retour négatif, notamment au sein des clubs européens qui sont les pourvoyeurs de joueurs africains pour les sélections?
C'est exactement le même problème qu'on a eu avec la CAN 2021 au Cameroun. C'est-à-dire que, effectivement, les clubs européens qui sont les clubs payeurs, c'est eux qui ont, comment dire, qui possèdent le matériel. Hein, c'est
le porte-monnaie.
Le porte-monnaie et qui, pour qui les joueurs sont des actifs financiers palpables. Forcément, à un moment donné, ils vont mettre leur nez dedans et ça va poser un énorme problème. Et puis déjà, le problème, c'est qu'on avait décalé la CAN en juin. On avait changé la périodicité pour
absolument
justement permettre à ces clubs aux joueurs de pas avoir le conflit avec leur club.
Ouais, oui.
Et on se rend compte en fait que c'est déjà un projet mort-né. En fait, on est déjà c'est la deuxième CAN hors Afrique du Nord ou Afrique du Sud et on se retrouve déjà avec des problèmes. Oui, on invoque la météo. Alors certes, mais bon, en même temps.
Oui, mais à un moment ou à un autre, il faut accepter le fait que on ne peut plus continuer à décaler. Bon, ok, là on décale, mais du coup, on se retrouve avec une Coupe du Monde qui va se jouer en novembre prochain. Mais tu ne peux pas jouer déjà une CAN en janvier prochain. Soyons clairs, il y a quelque chose.
Ça va poser problème, ouais.
Ce serait bien, faudrait que tu prennes l'autre micro, le 2, oui. Voilà. Celui-là. Très bien. Donc, je disais, ce serait quand même illogique. Vous avez une finale, une Coupe du Monde qui va se terminer en décembre prochain au Qatar. Et tu ne peux pas démarrer une CAN sous prétexte que l'excuse de la pluie. On arrive en janvier 2023, tu ne peux pas enchaîner deux compétitions majeures avec même pas trois semaines d'écart.
Moi, je pense que le temps a rattrapé les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens ont déclaré que les infrastructures seront prêtes en temps et en heure. Et là, d'après la déclaration du président de la CAF, automatiquement, il est en train de démentir leurs propos. Parce que, est-ce que c'est la pluie? Moi, je ne pense pas. Parce qu'ils peuvent s'adapter au climat. Le Cameroun l'a si bien fait, il faut le dire, parce que c'est presque le même climat.
Absolument, le Cameroun quelques petits couacs, mais dans l'ensemble, le Cameroun, sont les sorties. Hein. Mais à part Japoma,
oui, mais ça arrive, c'est le football africain. Mais la question qui reste posée, est-ce que le football africain est bien en ce moment? Parce que moi, quand je me pose cette question, la réponse qui me vient à l'esprit, c'est non. Parce que quand on regarde le football européen, on ne voit pas assez de reports. On ne voit pas assez de reports de matchs, ni de compétitions.
Sauf si vraiment on a un tremblement de terre. Voilà.
Même s'il y a un tremblement de terre, les dirigeants européens ont toujours des plans B. Chose qu'en Afrique, nous, on n'a pas. Mais par contre, selon certaines rumeurs, l'Algérie est en embuscade.
Pour
accueillir la Coupe d'Afrique.
Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'Algérie pourrait.
En Côte d'Ivoire.
Oui, pourrait l'accueillir, ce serait en été. Oui. C'est-à-dire que cela.
Parce que l'Algérie, en ce moment, il faut le dire, elle a les infrastructures nécessaires avec l'arrivée du stade Oran, de Balari qui sera prêt dans 4 mois, Tizi Ouzou, il reste juste la pelouse.
Et bien, est-ce que vous avez vu le petit stade de Sig qui se trouve à côté d'Oran? C'est un petit bijou de 20 000 places. Oui, vas-y, Nawel, parce que toi tu étais sur place. Vas-y.
Oui, bon, après 6 mois, bon,
bah. Oui, bah oui.
Oui, j'ai eu l'occasion de passer par SIG et de voir ce petit bijou, mais.
C'est une petite ville, hein, c'est un peu.
SIG, c'est une petite ville qui fait partie de Mascara. Hein,
oui, c'est ça. De
la wilaya de Mascara. Et franchement, moi, j'ai vraiment été étonnée. 20 000 places dans une petite ville comme ça.
20 000 places, couvertes,
oui.
Pelouse naturelle.
Les infrastructures maintenant.
Magnifique, hein, mais franchement, là, pendant les Jeux méditerranéens, beaucoup d'équipes ont évolué à SIG. Hein.
Oui.
J'étais surpris. Quoi.
Parce qu'en fait, comme c'est pas très loin d'Oran, ça reste l'Oranie.
C'est vrai.
Tu peux y accéder en même pas une heure, à peu près. Les routes, elles sont très, très bien maintenant. Ouais. On a des autoroutes qui sont vraiment magnifiques et qui sont actuellement, entre parenthèses, gratuites.
Oui, oui.
Donc, le transport des joueurs d'une ville à une autre se fait assez facilement.
D'accord.
Et 20 000 places, hein, tu peux accueillir quand même pas mal de monde pour une compétition. Hein.
Ouais, mais 20 000, très bien couverte.
Ouais,
ça, je trouve ça génial, franchement.
Ouais.
Je me dis, si tu rajoutes ça avec le Badari, oui, on peut dire que peut-être pour l'été de 2023, l'Algérie serait, moi, à mon avis, elle serait éventuellement prête.
Hein. Oui, on se pose toujours la question sur les infrastructures en Algérie, mais la question est réglée, parce que nous avons le stade de Tizi Ouzou qui sera prêt. Bon, il reste juste la pelouse, mais les tribunes et tout sont déjà prêtes.
Je suis passé à côté il n'y a pas longtemps. Hein.
Oui, voilà. Ouais. Le stade de Balakri sera prêt dans 4 mois. Les hôtels à Alger, bah, c'est pas ça qui manque.
Ouais. T'as toujours Bidal, 5 juillet.
Voilà, exactement. Oui. Et n'oublions pas le stade d'Annaba aussi.
Mais de Constantine.
Et je pense que l'Algérie a tout à fait les armes nécessaires pour accueillir cette CAN comme l'a fait l'Égypte en 2019.
Tout à fait. Ouais. Bon. Et ça permettrait peut-être pour une fois de revenir à ce fameux calendrier harmonisé avec les clubs européens et ne pas mettre les joueurs africains en difficulté. Quoi. Leur club.
Ça va être une solution de... Comment dire de...
C'est un plan B.
Un plan B, mais tu sais, on va retarder le problème. Parce qu'au final, tu vas te rendre compte que les compétitions, tu pourras les organiser qu'en Afrique du Nord, en fait. En été.
C'est une bonne réflexion là.
Ouais. Tu vas parce qu'à chaque fois qu'on va désigner un pays d'Afrique australe ou d'Afrique subsaharienne, tu vas avoir la même problématique qui va revenir sur le mois de juin, les températures tropicales, l'humidité, les infrastructures. Bon, en vrai de vrai, les infrastructures ça va parce que les pays se débrouillent hein, quand même.
Oui.
C'est vrai que la CAN 2019 a été une réussite totale.
Ouais.
Même si c'était un plan B à la dernière minute.
En Égypte, ils sont équipés, les Égyptiens, bien sûr.
Ouais. Même l'Algérie, maintenant, elle est très très bien équipée. Que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, les trois
absolument,
pays, ils ont les infrastructures nécessaires. Et d'ailleurs, on le voit, bon, ça fait pas longtemps que nous avons les infrastructures, mais on le voit pendant les Jeux méditerranéens, les athlètes algériens ont brillé parce qu'on a mis on les a mis dans les meilleures dispositions pour faire face à ce jeu méditerranéen. Et la preuve est là, ils ont remporté beaucoup de médailles.
Après, je trouve que sur ce premier sujet, maintenant on l'a abordé, on va attendre la suite, puisque l'info est tombée aujourd'hui, hein, faut dire, concernant ce report de la CAN en Côte d'Ivoire. On verra quelle sera la solution que proposera le comité d'organisation, parce que d'abord, c'est le comité exécutif de la Confédération.
Pour l'instant, le comité, il exige que la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu en Côte d'Ivoire. Mais pour l'instant.
Pour l'instant. Voilà. Attention.
Pour l'instant,
mais soyons logiques.
La compétition est maintenue en Côte d'Ivoire.
Mais attention, quand on dit maintenue, ça veut dire...
Pour l'instant.
Pour l'instant, à l'été 2023.
Oui.
N'oublions pas qu'en janvier, il y a le CHAN en Algérie. Le CHAN, donc, à partir du 8 janvier.
Exactement.
Très bien. Tu ne peux pas faire le CHAN et la CAN en même temps. C'est clair et net. La Coupe du Monde, elle sera terminée, je crois, le 18 décembre, la finale de...
C'est pour ça que l'Algérie sera en embuscade, parce que l'Algérie va préparer la CHAN et les infrastructures seront déjà prêtes. En cas où la CAF exige que la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu en 2023, l'Algérie est prête au niveau des infrastructures. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie,
c'est des pays qui
peuvent l'accueillir le plus normalement du monde. Et les hôtels, c'est pas ça qui manque, que ce soit dans le Maghreb, voilà.
Bah tant mieux, hein, tant mieux. Alors dans un instant, figurez-vous, juste après la pause, j'avais prévu de toute façon avec Fadil, on a dit qu'il y a un petit patchwork comme ça, mais je vais revenir après la pause
sur la déclaration de l'Arja.
L'Arja, c'est très important par rapport à Vaïd.
Déclaration qui a lieu aujourd'hui vers 14h.
J'étais en pleine émission à Walter Mazra, et puis donc l'info est tombée.
Exactement.
C'est c'est chaud, chaud, chaud pour coach Vahid. Est-ce qu'il va connaître la même désillusion qu'il avait connue avec le Japon, avec la Côte d'Ivoire, où seule l'Algérie lui a permis de faire une vraie Coupe du Monde, lui qui a qualifié quatre nations. Et ben, c'est ce que nous allons savoir dans deux semaines après, d'après. D'après ce qu'on a, comme info. Et puis, Sofiane, je te poserai une question sur les nouveaux droits télé
de Canal Plus.
De Canal Plus. Et Canal Plus, M6 aussi, en clair, pour les finales de Ligue des Champions.
Exactement.
Et on voit quand même, ça veut dire qu'il y a la sortie des autres médias, un peu comme.
Amazon Prime. M6 a remporté la finale avec 4 millions. Ils ont déboursé 4 millions d'euros pour la finale de la Ligue des Champions, Europa League et Ligue Europa.
Ouais. Surtout RMC Sport aussi.
Et RMC Sport qui perd beaucoup.
La grosse claque, c'est RMC Sport.
Pour l'instant, la question qui reste posée, est-ce que Canal Plus va partager le plateau avec les autres médias? Mais je les vois mal partager avec RMC. Mais par contre, avec Bein Sport, ils ont des très très bonnes relations.
Ouais. Très bien, on va marquer une première pause dans cette émission. On se retrouve dans un instant.
Foot de sport. Revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Sur Beurre FM.
Tranquillement, on revient sur le plateau de cette émission Foot de Sport, un plateau extrêmement chargé avec. Avec Fodil, Noël et Sofiane, et dans quelques dizaines de minutes, notre coach par téléphone depuis Alger. Je reviens, Sofiane, sur cette info de la semaine, les droits TV. Et c'est surtout Canal Plus qui s'offre jusqu'en 2027, à partir de 2024, bien sûr, toutes les finales des compétitions européennes, Ligue des Champions, Europa League et Ligue Conférence.
Ah, je crois que c'est même toutes les compétitions, tout court.
Ouais.
Toutes les compétitions à partir de 2024.
Ouais, sauf pour la Ligue 1, parce que les droits.
Je parlais des compétitions européennes.
Européennes, oui,
avec le nouveau schéma aussi.
Oui.
Avec
le nouveau schéma, oui.
Exactement.
Le championnat suisse.
Avec la nouvelle configuration.
Ouais, voilà. Où tout le monde n'affrontera pas tout le monde. Il y aura des repêchés automatiques qui seront là si tu finis entre tel et tel classement. C'est un peu compliqué le nouveau.
Et Canal Plus a déboursé 480 millions d'euros.
Ouais, d'accord. 4 ans.
Exactement, sur 4 ans. 480 millions d'euros. M6 a déboursé 4 millions d'euros pour les finales.
Ça veut dire que, si je comprends bien, messieurs, puisque vous êtes à fond sur ce dossier, il y a quand même des perdants dans l'histoire.
Les grands perdants, c'est RMC, ouais. Bein Sport et d'autres médias, comme Amazon. Bon, Amazon, ils ne sont pas pour l'instant, ils sont pas spécialisés dans la Ligue des Champions, mais automatiquement, ça les intéresse, parce qu'ils viennent de débuter dans le monde de l'audiovisuel, mais ça les intéresse.
Est-ce que Bein, par exemple, ne s'intéresse pas plus aux compétitions européennes, mais en version arabe, parce que au niveau français, ils mettent moins le paquet, je trouve.
Non, parce que là, en France, pour l'instant, c'est Canal Plus qui est prioritaire.
Oui.
Et la preuve est là, ils ont déboursé 480 millions d'euros. Moi, je ne vois pas Canal Plus ne pas partager le gâteau avec les autres médias.
Bon, mais en plus, ils ont des bonnes relations, comme tu as dit.
Ouais. Voilà, exactement, ils ont de très bonnes relations, parce qu'on voit des journalistes qui travaillent chez Canal Plus qui sont sur Bein Sport, chez Canal Plus. Ça veut dire que les relations sont fraternelles entre les deux, même s'il y a une concurrence rude sur le terrain,
c'est
une concurrence professionnelle. Mais moi, je vois pas Canal Plus ne pas partager le gâteau avec les autres, parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de matchs. Est-ce que Canal Plus aura le canal pour diffuser tous les matchs? Je ne pense pas. Et Bein Sport peut être une alternative pour Canal Plus. Mais pour quel prix? Là, il faut voir les négociations.
Ah, faudrait pour que Canal Plus puisse tout diffuser, il faudrait ressusciter Foot Plus.
Exactement.
Oui.
Exactement, c'est ça. Et pour l'instant, je vois pas Canal Plus ne pas partager le gâteau. Ouais. Et j'imagine, moi, je vois une alliance Canal Plus Bein Sport, parce que entre Canal Plus et RMC, j'ai du mal à croire.
C'est Tom et Jerry, quoi, c'est ça.
La seule interrogation en réalité sur Bein Sport, c'est quel engagement du coup de l'État du Qatar,
oui,
après la Coupe du Monde.
C'est pas les moyens qui manquent.
Non, les moyens, ils les ont.
Oui, non. C'est une très bonne réflexion de Sofiane, parce que les Qataris ont beaucoup investi dans le football français et dans le football européen, mondial en général.
De le faire
derrière, il y a cette Coupe du Monde chez eux. Ouais. Que se passera-t-il après la Coupe du Monde?
Là, il faut laisser le temps faire le choix.
On a toujours posé cette question. Est-ce que Bein va ambitionner l'après 2000.
Oui, bien sûr, parce que s'ils ambitionnent rien, ils vont tout perdre. Et Beansport, avant, ils s'intéressaient uniquement au sport. Et là, on les voit, ils s'intéressent à la Formule 1, même si Canal Plus est prioritaire, mais ils s'intéressent quand même à la Formule 1, à Wimbledon, à d'autres championnats, à d'autres sports aussi.
Ils se sont quand même un peu désengagés du championnat de France.
Désengagés, mais pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir les droits. Et quand on regarde le championnat de France maintenant, quand on regarde les joueurs qui évoluent, en l'occurrence Lionel Messi, Neymar, que des grands joueurs. Mais ça intéresse tous les grands médias, pas spécialement que Beansport. Ça veut dire maintenant la concurrence est rude pour avoir les droits d'image de la Ligue 1, chose qui n'était pas le cas il y a 2 ans, 3 ans.
La Ligue 1 ou le PSG?
Ouais, plutôt le PSG, moi.
Je dirais la Ligue 1, parce qu'il ne faut pas dire uniquement le Paris Saint-Germain, parce que là, avec l'arrivée aussi des nouveaux investisseurs à l'OM, on risque de voir de grands noms.
La preuve, Sampaoli est parti.
Oui, il est parti maintenant.
Mais c'était une grosse surprise aussi, son départ.
Oui, il est parti maintenant.
Oui. Oh, surprise.
Surprise, non.
Quand tu connais un peu le personnage, c'était une demi-surprise.
Oui, ouais. Tu vois. Oui. Il était un petit peu sur les charbons ardents.
Voilà. Il a fait la même chose aussi en quittant son club au Brésil pour rejoindre c'est du Sampaoli. Moi, Sampaoli me fait penser à José Mourinho sur le terrain et en dehors du terrain
aussi. C'est quand je veux, comme je veux.
Ouais. Sauf qu'il n'a pas le niveau aussi de Mourinho. Faut le dire.
Ouais. Ouais, mais quand même, il a réussi à faire finir l'OM deuxième.
Avec une jeunesse. Ouais. Moins expérimenté que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain ou de l'équipe du Paris Saint-Germain.
Il avait un bel effectif entre les mains.
Il avait un bel effectif, mais pas un bon aussi profond. Parce que si c'était le cas, je pense qu'il aurait pu titiller le Paris Saint-Germain. Parce qu'il y avait quelques semaines où le Paris Saint-Germain n'était pas assez en forme.
Parce que Marseille n'a pas ce groupe de 18 joueurs qui peut lui donner ce qu'on appelle cette alternative.
Oui. Il n'y a pas un banc extrêmement profond comme le Paris Saint-Germain.
Ouais. Même le banc de Paris n'était pas top. Hein. Tu sors presque.
Paris,
13-14 joueurs après à Paris.
Ça a posé beaucoup sur Mbappé cette année.
Exactement.
Après, bon, on est quand même dans une différence entre les effectifs qui est quand même assez truc.
C'est pas la même chose quand tu as un Di Maria sur le banc qui rentre sur le terrain.
C'est ça.
C'est un exemple.
Mais c'est vrai que Sampaoli. Au-delà de l'entraîneur, il faut quand même reconnaître qu'il a eu entre les mains des joueurs, que ça fait longtemps qu'un entraîneur à Marseille n'a pas eu de ce matériel-là pour travailler. Bon, je trouve.
C'est allusion à qui?
Saliba, Guendouzi.
Oui, mais ce sont des joueurs.
Il a quand même Amin Harit qui est pas mal, c'est bon joueur. Milik qui s'est permis de le mettre sur le banc. Il y a un œuf de ce niveau-là. Il y a des années où est-ce que. Enfin, je pense qu'un joueur comme ça, c'est titulaire. Partout, tu vois. Je trouve quand même que le fait qu'il ait le choix, qu'il a imposé ses choix, il a quand même. Oui. Je trouve qu'il avait quand même un effectif assez conséquent. En défense centrale, tu avais les postes qui étaient quasiment doublés, tu vois. Ouais.
Parce qu'il avait une carte blanche aussi cette année.
Ouais, et puis t'as Longoria qui avait fait du sacré boulot.
Très bon travail.
Attention, ça joue. Hein. Ça joue quand même.
Il faut signaler le travail de Longoria parce qu'il a réussi à recruter, prêter des joueurs. Qui évoluent dans d'autres championnats qui n'avaient pas leur chance, et l'Olympique de Marseille leur a donné leur chance. En l'occurrence, Amin Harit, Saliba,
Guendouzi,
voilà. Ce sont des joueurs qui ont pu s'affirmer cette saison grâce à Sampaoli parce qu'il a été là pour eux. Ils ont réussi à progresser dans des phases de jeu où ils n'étaient pas assez forts.
Mais c'est des garçons, mine de rien, qui ont réussi à intégrer l'équipe de France. Hein. Je pense à Saliba, je pense à Guendouzi.
Ce sont des joueurs aussi jeunes.
Oui, qui ont quand même rejoint l'équipe de Didier Deschamps. Très bien, je prends juste un appel du côté des standards. On va arriver à la seconde pause et puis on va essayer de capter notre coach national. Bonsoir, bienvenue. Allô?
Bon. Allô?
Oui.
Oui, salam alaikum, Mohamed, c'est Abdelkrim de Grenoble.
Bonsoir Abdelkrim, comment vas-tu?
Ouais, salam alaikum bonsoir à vos collègues. Je ne sais pas si coach Hamza qui est revenu.
Je l'aurai par téléphone, il est encore au soleil du bled. Ouais.
Ah, d'accord, ok. Et il y a que Sofiane avec vous actuellement, ou il y a une troisième personne?
Sofiane, Fodil, Nawal qui est là aussi.
Ah, Nawal est revenu.
Eh oui.
Salam alaikum, ça fait un moment.
Alaikum salam, comment vas-tu?
Ouais, ça fait un moment qu'on vous a, vous n'êtes pas passé dans l'émission parce que Je crois que ça fait quelques mois, on m'avait dit que c'était en vacances chez vous à Oran.
Oui, et durant 6 mois.
Ah, d'accord.
Ah oui,
hein. Ah, bah, ça va, 6 mois, t'as bien profité. Hein,
bah, bien sûr, 6 mois au bled, qu'est-ce que tu crois?
C'était l'occasion de voir les infrastructures à Oran.
Ah, d'accord. Mais par contre, t'es revenu il n'y a pas longtemps, t'as eu le temps de voir au moins quelques jours des Jeux méditerranéens ou pas?
Non, pas du tout. Hein. Je suis rentré début juin. Donc, j'ai vu l'avant Jeux méditerranéens.
Ouais, voilà. Ça, c'est bien.
D'accord.
C'est, elle a eu tout le loisir de voir les terrains, etc. C'était beaucoup plus facile.
D'accord, ok. Bon, avant que j'oublie, je passe le bonjour à ma famille, la famille Boutaïeb, à Vanvelin, à Lyon, qui m'écoute. Ouais. Je passe le bonjour aussi à mon ami italien Tony Baira, il se reconnaîtra, il habite à Décines, à Lyon. Et le dernier coucou, je le passe à mon ami d'ici de Grenoble, Abdel, il est d'origine constantinois et c'est un grand supporter des Chabab de Constantine, le CSC.
Très bien.
Alors, juste à vous dire, je pense que vous avez dû avoir l'information, mais je ne sais pas si vous en avez parlé, que c'est officiel, on le sait depuis aujourd'hui, la CAN 2023 en Côte d'Ivoire a été reportée de 6 mois, et donc
en janvier 2004. C'était le premier sujet de l'émission, Abdelkrim.
D'accord. Alors, apparemment, c'est par rapport à ce tour des puits qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire.
Oui, non, mais.
Il y a quelques jours, j'ai vu Abidjan noyé dans les eaux.
Ouais, mais.
Et apparemment, ça correspond. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que. À la base, il le savait, donc pourquoi avoir programmé
Abdelkrim, mais ça, j'ai répondu à cette question à l'époque pour récompenser ses amis, l'ancien président Issa Hayatou, pour faire plaisir à ses amis. Il a offert en cadeau 3 cannes à la francophonie, c'est-à-dire Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée. Et il se trouve que ça a été fait à la hâte. Lorsque Ahmed est arrivé, il y a eu le bouleversement des calendriers, à savoir harmonisation avec l'Europe. Et à ce moment-là, malheureusement, tu l'as vu ce qui s'est passé avec les cannes organisées dans l'Afrique subsaharienne. À chaque fois, décalage. Bien sûr, il y a le Covid, mais aujourd'hui, on parle de pluie. Alors, dans ces conditions, on ne peut pas revenir à chaque fois sur l'hiver. C'est ce qu'on a dit dans cette émission. Si jamais on revient à l'hiver, ça voudrait dire que la Côte d'Ivoire ne pourra pas l'organiser avant 2024. Voilà.
Oui, effectivement.
Laisse-moi finir. Abdelkrim, les années paires sont réservées à l'Europe et au monde, et les années impaires à l'Afrique. Ça veut dire qu'on va simplement sortir du cadre qui était programmé pour l'Afrique.
D'accord. Non, juste pour dire qu'ils ne pouvaient pas l'organiser en janvier 2003, parce que la Coupe du Monde au Qatar, elle a lieu en fin d'année.
Exactement. Oui.
Donc du coup, les équipes africaines qui participent n'auraient jamais voulu participer à une CAN où ils n'auront pas le temps de souffler et reprendre quelques semaines après.
Oui.
Du coup, ils sont obligés de la reporter à janvier 2004. Par contre, ce qui est un peu décevant quand même, comme tu as dit Mohamed, c'est que j'ai remarqué quand même depuis l'ancien président de la CAF, le corrompu Ahmed, avec son complice Fouzilek Diop, parce que pour moi, je reste comme j'avais dit la dernière fois, vous ne me ferez pas changer d'avis, il était vice-président de la CAF à l'époque, et c'est lui qui tirait les ficelles plus que le malgache. Le Marocain qui est toujours en place, le controversé Fouzilek Diop, président de la Fédération Royale, ils ont fait une chakchouka, c'est abusé. On donne des organisations à des pays, après le retire. Je pense notamment à ce qui s'est passé par exemple au Cameroun, qui devait organiser une CAN, la CAN 2021, et on l'a retiré parce que à l'époque, quand de Issa Hayatou, c'était une CAN à 16 sélections. Et quand il est arrivé, l'ancien président corrompu de la CAF, Ahmed, il a dit allez, avec son complice, bien sûr, monsieur Fouzilek Diop, qui est son nombre. Ils ont décidé de passer de 16 à 32 sélections sans
demander
l'avis des Camerounais qui étaient dans l'embarras.
Abdelkrim, 24.
Passer...
Oui 24, pas 32.
Oui, mais c'est pas pareil. Quand on donne une canne, à ton pays, tu dois organiser avec 16 sélections.
Non, mais,
an après, ou 2 ans après, si je ne me trompe pas, et t'as un nouveau président de la CAF.
Nous, on a cette sélection.
Je te dis, écoute, je t'oblige à organiser la CAN avec 16 sélections en plus.
Mais c'est pas ça, Abdelkrim. C'est juste qu'on veut copier l'Europe et aujourd'hui, l'Afrique n'a pas les moyens de copier l'Europe.
Je suis d'accord avec toi, Mohamed.
Voilà,
c'est qui l'a décidé à l'époque de Zéha et tout. Il voulait pas copier l'Europe, Zéha et tout. Rappelle-toi, il est resté de 1988 jusqu'en 2017. Il restait pratiquement 30 ans.
Hayatou ne voulait pas passer à 24. Effectivement,
il voulait rester à 16 équipes.
Oui,
il avait raison.
Parce que, ou alors il faudrait faire 2 CAN. Une canne au nord, une canne au sud.
Les moyens, actuellement, en Afrique, on a peu de pays qui ont les moyens d'organiser une canne à 16. Ah, 24, excuse-moi, de 24.
Alors, Abdelkrim.
Il a pas bougé de 16 en 30 ans de pouvoir. Et les deux rigolos, là.
Non, mais Abdelkrim.
Ils sont arrivés, ils ont tous enroulé.
Abdelkrim, attends. S'il faut être dans la. dans l'organisation d'une compétition va être logique. Tu prends l'Europe, tu prends depuis Lisbonne jusqu'à Moscou, tu en as pour 3 heures d'avion. D'accord ? 3 heures d'avion, ça c'est l'Europe. Tu prends Alger, le Cap, c'est 10 heures de vol. On n'est plus sur le même continent. Donc, une CAN organisée en Afrique, c'est beaucoup trop compliqué par rapport au continent. Parce que l'Afrique est dans le sens longitudinal. Il est dans le sens de la longueur, le continent africain. Il n'est pas dans la largeur. Et même dans la largeur, il est immense.
Je marque une pause pub
et je te récupère dans un instant. A tout de suite, Abdelkrim.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM.
Comme vous le constatez, cette première heure de l'émission Foot de sport passe très vite. Pourquoi je dis pas la troisième heure? J'ai l'impression qu'il nous faudrait 3 heures pour parler de toute cette actu. Mais on doit respecter ce timing. Bien entendu, notre coach est musicalement occupé. J'ai bien dit musicalement occupé. Donc, nous allons revenir sur, avant de récupérer Abdelkrim de Grenoble. Donc, Abdelkrim, tu restes un petit peu avec moi. Fodil, la déclaration de l'Arja par rapport à Vahid Halilhodžić, c'est très important.
C'est une déclaration qu'il a fait à 14h sur la radio MF Radio, qui est une radio française. Je le cite, avec Vahid à plusieurs reprises, je lui ai dit de ne pas changer de formation à chaque match. J'ai eu beaucoup de différends avec lui. Les joueurs viennent en sélection tout d'abord pour porter le maillot de l'équipe nationale et deuxièmement pour l'ambiance à l'intérieur de l'équipe. Mais le deuxième point n'est pas le point fort de Vahid Halilhodžić. Les choses ne sont pas si simples. Dans 15 jours, on prendra la décision soit de renouveler la confiance à Vahid Halilhodžić ou soit de chercher une alternative. S'il y a une alternative, l'opinion des joueurs sera aussi décisive.
Quand, Sofiane, tu écoutes ce genre de déclaration, ça veut dire que Vahid n'est pas le vrai patron. Il a un employeur qui s'appelle la Fédération Royale Marocaine de Football, à sa tête Fouzil Rja, mais avec une telle déclaration, en gros, il ne veut pas se mettre à dos certaines stars, notamment Hakim Ziyech. Et c'est pour, probablement la préparation du terrain pour Villas-Boas.
Villas-Boas ? J'avais vu passer ça, mais alors est-ce que c'est toujours dans les tuyaux?
Visiblement, pour les joueurs...
Oui, c'est toujours dans les tuyaux. Dans la presse marocaine, c'est toujours dans les tuyaux. Ah ouais. La question qui reste posée dans cette alternative, qui est vraiment le sélectionneur de l'équipe nationale?
Eh oui,
est-ce que c'est Vahid Halilhodžić?
Ben oui. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas toutes les cartes en main?
C'est exactement ça.
Ouais.
Après, on connaît Fawzi Lerger, on sait comment... le renouveau aussi du football marocain, c'est aussi le président de la Fédération marocaine de football. Après, on peut dire ce qu'on veut, corrompu, pas corrompu. Moi, ça, c'est pas des.
Moi, je fais un constat. Le Wydad gagne la Ligue des Champions. La Berkane. La Coupe de la CAF.
Le Maroc.
Les U18 sont arrivés en demi-finale des Jeux méditerranéens, battus sur le fil par l'Italie avant-hier, je crois, ou hier, il me semble. Donc, c'est un constat. L'équipe est qualifiée pour la Coupe du Monde.
C'est exactement ça. Ils font une Coupe d'Afrique des Nations 2021 plus qu'honorable où ils sortent en quart de finale.
Par l'Égypte, ouais.
Ouais, par l'Égypte. Alors après, on peut dire, oui, le tirage que tu veux, mais bon, ça fait partie d'un tournoi, d'une compétition. Et après, on sait très bien, de toute façon, Vahid Halilhodžić, au-delà de ça, bon, certes, t'as le patron, mais même à Nantes, c'était chaud avec Valdemar Quitta, c'était bouillant. À Paris Saint-Germain, c'était Perper, je sais plus.
Ouais.
2003.
Ah oui, Perper, oui.
C'était chaud. On sait que c'est quelqu'un qui a un tempérament, qui a du caractère. C'était bouillant, mais ça passait mieux avec Raouraoua à l'époque en Algérie. Ça passait mieux parce que il avait les résultats, mine de rien.
Le Maroc aussi, il a les résultats. Le problème, c'est que c'est le fameux 3-0 qui ne passe pas avec face aux États-Unis.
Ouais. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est que oui, effectivement, je pense que ce qu'il y a aussi qui est sous-jacent, moi, ça me fait penser, tu sais, un petit peu toute proportion gardée à l'époque Bernard Tapie à Marseille, qui disait en gros, les joueurs, vous avez fait le travail, mais moi aussi, j'ai fait le travail dans les coulisses. C'est-à-dire vous avez fait ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a aussi un Fawzi Lerger qu'on voit le message. Moi aussi, de mon côté, j'ai fait le boulot. Donc, quelque part, ce que fait Vahid, c'est bien. En même temps, sans enlever du mérite, il a quand même une génération qui est intéressante.
Ah oui, et, oui,
absolument. Et maintenant, pour passer le cap, c'est ça aussi, parce que Vahy, il a emmené des équipes en Coupe du Monde. Pour passer le cap, pour passer huitième de finale, quart de finale, est-ce que ça va être suffisant si tu vas pas avec des joueurs comme Hakim Ziyech, etc. C'est la question, sachant que bon, ça, on peut faire des pronostics, mais le Maroc a quand même une poule qui est jouable,
oui.
D'après moi.
Oui.
C'est jouable. Hein. Il y a la Belgique qui est un peu au-dessus, mais derrière Canada, Croatie, ça reste ouvert.
Non, voilà. Canada, je suis pas aussi sûr.
Tu penses ?
C'est une nation.
C'est très physique.
Ouais. C'est une nation qui commence à confirmer.
Je suis d'accord avec toi, mais ils reviennent à peine en Coupe du Monde. Tu
ouais,
penses
c'est... Ouais. D'après ce que j'ai vu, ouais. c'est une nation qui commence à confirmer sur la scène internationale.
Bah parce que le Canada déjà se prépare pour 2026, il ne faut pas l'oublier. Hein.
Avec de bons joueurs.
Canada, États-Unis, Mexique.
Comme le mec de Lille aussi, David.
Voilà, bon Ben ouais. Davids aussi, ouais. Celui du Bayern. Mm. Pour moi, Vahid Halilhodžić, il est en train de vivre presque la même histoire qu'il a vécue avec le Japon.
Ouais.
Il a quitté 3 mois juste avant la Coupe du Monde. Est-ce que c'est une bonne chose pour la sélection marocaine? Je ne pense pas, parce que changer un entraîneur à 6 mois de la Coupe du Monde, c'est un pari extrêmement osé. Est-ce que les joueurs n'ont pas mis beaucoup de pression sur leur diable pour prendre un autre sélectionneur?
Ça peut être ça aussi. Ça,
Vahid, c'est un management très très lourd.
Exactement, cette histoire, nous l'avons vécue aussi en Algérie avec Rayvac, quand il est arrivé à la sélection algérienne, où les joueurs ont fait beaucoup de pression pour qu'il quitte le poste et qu'il recrute un autre sélectionneur. Ça n'a pas fonctionné aussi. Est-ce que le fait de le non-retour de Hakim Ziyech pèse aussi? Les questions restent posées. Pour l'instant, nous n'avons pas assez de réponses ni assez d'éléments de la part du président de la fédération marocaine. Mais l'Arja a son propre caractère. Vahid aussi a le sien. Ça a été un peu tendu avec Rolawa à une période.
Oui, je me souviens, c'était très limite. Hein.
Voilà, c'était tendu, bien sûr.
Exactement, limite, ils ne se parlaient même pas parce que les deux avaient leur caractère extrêmement opposé. Mais est-ce que nous sommes en train de nous diriger vers une autre histoire, une autre division pour Vahid Halilhodžić? Je pense que tous les voyants sont en rouge pour lui et je ne le vois pas vraiment aller en Coupe du Monde. Mais bah. Est-ce que.
Très bien, je récupère quand même Abdelkrim. Okay. Donc là, on l'a compris, cette histoire de Fawzi Lerjia avec Vahid n'est pas terminée. On va voir, est-ce que ce sont les joueurs qui finiront par chasser le sélectionneur? Comme tu l'as dit, Fodil, il faut un délai de 2 semaines environ. Allez, bon, je te récupère Abdelkrim rapidement.
Oui, salam alaikum. Allô?
Oui, je t'écoute, Abdelkrim. Non,
oui, parce qu'il y avait la pub de ça. Donc, je te rappeler aussi pour parler du football algérien-africain. Juste pour dire une chose, que vous n'avez pas, je pense, l'info, c'est que là, c'est officiel aussi comme pour la CAN. La Super Ligue africaine que la plupart des pays africains, surtout comme l'Algérie, n'en voulait pas, va commencer au mois d'août avec 24 clubs qui seront répartis en 3 groupes de 8 clubs. Et en fait, ils vont prendre les 5 premiers des 3 groupes plus le meilleur 6e. Et après, on aura des. À partir du huitième de finale, ce sera une nation directe, sachant qu'elles vont se répartir, comme tu disais, Mohamed, par rapport aux zones régionales. C'est-à-dire qu'il y aura une poule Afrique du Nord.
Ah, c'est mieux. Du Nord, c'est mieux. Parce que...
Une poule à Afrique centrale et de l'Ouest ensemble, et une poule Afrique du Sud et Afrique de l'Est, du côté de la Corne de l'Afrique.
C'est beaucoup plus cohérent, tu vois.
Le problème, c'est que ça va faire trop avec la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF qui va commencer, je crois, au mois de septembre.
Oui, mais derrière ça, c'est parce que, entre nous, Abdelkrim, c'est parce qu'il y a les télévisions.
Un manque d'argent, apparemment. La Ligue des Champions.
Oui, mais tu ne peux pas démarrer une compétition si derrière il n'y a pas eu une télévision qui est intervenue pour apporter de la finance. Aujourd'hui, le football est un produit qui est vendeur. Et on le vend à tous les niveaux, on crée des compétitions, on arrive quasiment à un point où aujourd'hui, tous les jours, tu as des matchs. Il suffit de regarder les applications pour t'apercevoir qu'à travers le monde, tous les jours, il y a des matchs. On finit par saturer, on choisit quelques matchs. Quoi. Voilà,
ouais, mais pour moi, ça va être trop là, franchement.
Bien sûr, mais on le sait.
Pour moi, c'est un peu une deuxième Ligue des Champions qu'on nous rajoute dans la même saison. Ça va être trop, même s'il y aura de l'argent en plus. Franchement, par contre, pour finir, pour revenir à ce que vous disiez là tout à l'heure, là, par rapport à. Parce que, après, comme on a dit, chacun a son avis sur ce que je vais dire. C'est que, faut pas oublier une chose, c'est que Mohamed Al-Rawa, il était. Il faisait partie de la CAF. Oui. À l'époque, il était dans le comité exécutif de la FIFA. Et il était aussi au niveau de la CAF. Faut pas oublier, c'est ça aussi qui nous a aidé aussi. Comme je vous avais dit,
mais c'est normal.
Un Algérien qui est présent dans la commission, ou même que ce soit un Marocain, ou peu importe, qui est présent pour aider le football de son pays, parce que j'allais dire, j'ai vu dernièrement un documentaire qui confirme comme quoi la plupart des dirigeants africains, surtout les Maghrébins, ils travaillent plus pour l'intérêt du football de leur pays que pour le football africain en général.
Mais ça, c'est connu depuis la nuit des temps.
Voilà,
chacun défend son
but. Parce qu'on paraît tard des résultats, mais les résultats aussi viennent parce que quand on a un dirigeant qui est bien placé au niveau de la CAF, qui, comme on dit en français, il a le bras long, et ben, je peux vous dire que ça aide beaucoup. Parce que c'est bizarre. Quand eux, ils n'avaient pas de. Quand nos voisins marocains, ils n'avaient pas de dirigeants du côté de la CAF, ils étaient où? Ils étaient dans le trou. De 1998 à 2018, ils ne sont pas qualifiés pendant 20 ans en Coupe du Monde.
Eh oui.
Ils n'ont pas réussi à passer le premier tour de la Coupe d'Afrique depuis 2004, avant qu'ils arrivent en quart de finale 2007 avec Hervé Renard. Les clubs marocains, je me souviens, jusqu'à 2011, je crois, jusqu'à 2011, ou 2010, il n'y avait aucun club marocain qui arrivait à se qualifier en poule de la Ligue des Champions
mais
africaines.
Entre-temps, oui, d'accord, mais entre-temps, c'est quand même...
Non, mais en Afrique,
après, ils ont travaillé. On va pas dire à chaque fois les dirigeants. Ils ont travaillé, Abdelkrim.
Dans le siège de la CAF.
Ils ont bossé.
Le football de ton pays, il progressera petit à petit.
Oui, mais regarde, malgré tout, ils ont quand même ouvert des académies, ils ont ouvert des écoles de foot, etc. Aujourd'hui, ils sont en train de récolter
Mohamed Rams, oui. Salsi. En attendant, l'équipe du Maroc, c'est ce que j'ai vu. Comme là, ils ont fait un reportage lors de la Coupe du Monde 2018. C'était la seule équipe où sur les 23 sélectionnés, c'est tous nés à l'étranger.
Oui.
Et 99% de l'équipe actuelle du Maroc, voire 90%, elle est formée de joueurs qui jouent en Espagne, en Italie, je sais pas où.
En Belgique et Pays-Bas aussi, oui, c'est ça, ouais, absolument. Ok, merci beaucoup, Abdelkrim.
Alors, dans ce contexte, j'aimerais avoir une équipe du Maroc composée des meilleurs joueurs professionnels et essentiellement des joueurs locaux. Là, on verra les résultats en Dante qui vont
avoir. Tout le monde sait que le football local africain ne pourra jamais jouer une Coupe du Monde.
La preuve, le Cameroun, regardez. Ils ont des bonnes équipes, enfin, ils ont une bonne équipe nationale A, mais au niveau des clubs,
Camerounais,
c'est rare qu'on les voit qualifiés dans les poules de la CAF ou les poules des champions.
Ok, merci Abdelkrim. Bonne soirée. Ok. Ben oui, sinon on finira pas parce que moi j'arrive à la dernière partie de cette émission et puis on va enchaîner effectivement la deuxième partie qui sera très chargée. On va parler de volley, on va parler du Sahara, parler du rugby, éventuellement du méditerranéen. Tout dépend de l'atterrissage de l'avion. Donc mon ami Souhil, je le surveille via une application dès que son avion atterrit. Ça veut dire que je vais le contacter, vous vous rendez compte? Alors Souhil, c'est le frère de Majid Bouguera, l'entraîneur de l'équipe A-Prime d'Algérie.
18h, 20h, Fou de sport. Avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Ah, les liaisons dangereuses, ce sont les liaisons téléphoniques. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Le principe même de la com, c'est ça aussi. Donc, nous avons quelques soucis avec le volet. En attendant, on revient sur notre actu, n'est-ce pas? Alors, je reste avec toi, Sofiane, parce que tout à l'heure, j'étais en train de parler de Mercato. Et puis, la bonne nouvelle qui est tombée, c'est Benaïli qui prolonge au Stade Brestois.
Ouais, bonne nouvelle, ça c'est bien, il va trouver un peu de stabilité.
Et puis c'est surtout moi je pense que c'est un bon choix parce que tout le monde le voyait repartir dans les pays où il va, par exemple pour l'argent, etc. Et au final, non, il reste parce que il se dit que pour jouer des compétitions de très haut niveau, il n'y a pas mieux que la Ligue 1 parce que c'est très physique.
Pour l'amour du maillot.
oui, pour l'amour du compte en banque. Oui, merci Noël. Attends, non, mais tu as raison Noël. Ouais.
À Brest, l'amour du maillot.
Oui.
Non, mais c'est une bonne nouvelle, effectivement. Championnat physique, là, il va avoir une préparation complète.
Oui.
Après, c'est... c'est bien, là pour le coup, là on va vraiment pouvoir jauger du niveau de...
Est-ce que tu l'avais vu juste en fin de saison, juste avant la fin du championnat, comment l'équipe d'Air Zakarian a affiné Belaïli? Parce que quand il est arrivé, la petite Bouboule, quand on l'a eu comme ça en janvier, et après, c'était pas le même joueur.
Hein. C'était plus le même joueur. C'est vraiment le là il s'est frotté vraiment à ce que fait le très haut niveau en termes de préparation physique et en termes d'exigence sur le plan athlétique. Tu peux pas venir avec 5, 6, 8 kilos de trop quand t'es joueur de très haut niveau professionnel. Et c'est pour ça aussi que c'est finalement Brest, ça s'est avéré un bon choix. Bon, même si c'est un peu comme Slimani, Brest, c'est comment dire, ça reste un club il avait signé là-bas dans l'optique de la Coupe du Monde. Donc malheureusement, il n'y a pas de Coupe du Monde. Mais.
Comment on dit chez nous, l'Arabe.
Oui, la Coupe du Monde fait partie des rêves.
Parce que Belaïli, à la base, sa signature, c'était ça. C'était.
Oui,
comme Slimani, c'était il faut que tu retrouves du temps de jeu pour.
Pour jouer la Coupe du Monde.
Voilà. Et pour ce fameux barrage, bon, on va pas revenir dessus. Mais
non,
c'était l'objectif.
Je voulais faire le bilan, mais quand je reviens à ça. Ça me brise le cœur, donc il n'y aura pas de bilan. D'accord.
Ah, écoute.
Bon, écoute, souvent on va commencer notre travail d'intervieweur. On va commencer par le volley-ball.
Les dossiers de Fou de Sport. De Fou de Sport.
Alors, Fadil, direction Alger ou Oran
Direction Béjaïa cette fois-ci.
Tu ne m'as pas laissé finir ma phrase. Bon, alors, c'est parce que nous avons une jeune fille, une volleyeuse de la sélection algérienne qui a participé à ces Jeux méditerranéens.
Exactement.
Je te laisse la présenter et après, on va discuter avec elle le plus normalement du monde.
Elle s'appelle Aïcha Mazmat. C'est une volleyeuse âgée de 31 ans, internationale depuis 2009.
Et quand même, c'est superbe bail. Hein.
Ouais. Elle joue actuellement au MCA d'Alger, elle évolue au poste de centrale. Et comme elle a pris part aux Jeux méditerranéens, on aimerait bien lui poser quelques questions sur la sélection, sur le déroulement de ces Jeux méditerranéens pour avoir la température.
Bon, alors, la première question. Je vais vous surprendre. Hein. Bonsoir Aïcha.
Bonsoir.
Merci bonsoir. D'avoir accepté l'invitation de Beurre FM.
Avec plaisir.
Bon, alors, Fadil a oublié de poser une question.
Allez là.
Mais tu vas voir, tu vas. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là, Fadil. Non. Comme tu es une volleyeuse,
oui.
Donc logiquement, je dis bien logiquement, tu es grande. Combien mesures-tu?
Alors, je mesure 1m87.
Ah, vous voyez, j'ai raison.
Hein, c'est ma cousine en plus.
Oui, tu n'as pas pensé à celle-là.
Ah, si, elle m'a envoyé ça dans ses fiches. Dans le volley-ball, franchement, avec
Qui mesurait
1m97.
Ouais.
Franchement, c'était énorme. Moi, je suis à côté d'elle.
Non, mais j'ai pensé à ça, Mohan, parce que figure-toi, ce matin, j'ai échangé avec elle, elle m'a envoyé sa fiche technique.
Ah.
Et oui.
Tu vois, non, mais tu sais, à une époque, j'ai fait un gros dossier sur le volley-ball. Je crois qu'avec Nawal, on a fait une émission sur le volleyball féminin.
Oui, c'était à l'époque de Colonel Fabien.
Tout à fait. Et puis, je crois que la fille était venue au plateau, il me semble, Nawal, je ne me rappelle plus de son nom. Elle était grande comme fille, je me souviens.
On l'avait eue par téléphone.
Oui. Parce qu'à l'époque, j'ai fait handball, volley, basket.
On avait fait un peu tous les sports féminins. En fait,
donc maintenant, on a la chance d'avoir Aïcha. Mesmat, c'est ça son
nom? Exactement.
Bon, bah alors je te. Voilà. Aïcha d'abord, puisque Sofiane a sorti cette fiche. Bah, vas-y, pose alors la première question. Maintenant que j'ai posé la question sur la taille, maintenant, tu as le feu vert.
Ma première question, Aïcha, puisque tu as pris part des Jeux méditerranéens avec la sélection algérienne, et vous vous êtes fait éliminer la semaine dernière par l'Italie par une défaite.
Non, mais attends, mais c'est l'Italie!
3-0, mais quand même, c'est l'Italie.
Exactement.
Exactement. Et avec le recul, comment vous expliquez cet échec? Parce que, est-ce qu'on peut l'appeler échec aussi? Et j'aimerais savoir comment vous expliquez cet échec et cette déroute, avec trois défaites.
Alors, franchement, comme vous savez, c'est la pire de la Covid, chez nous en Algérie, il y avait une petite rupture de 2 ans, une grande rupture. Et pour un sportif, c'est énorme. De rester sans activité, sans un lieu de sport, toutes les salles étaient fermées. Donc, franchement, c'était très très dur pour nous, même la reprise.
Mais justement, Aïcha, alors, c'est très important ce que tu es en train de nous dire. Cette fameuse période Covid qui a, passez-moi l'expression, tout cassé au passage. C'est compliqué quand on est sportif de haut niveau, on ne peut même pas. Courir, s'entraîner, avoir un lieu.
Voilà. Mais, et surtout avec les couvre-feux en Algérie, c'est très dur.
Et qu'est-ce que tu as fait qu'as-tu fait pendant ces 2 années au cours desquelles tout est fermé?
Alors, franchement, personnellement, j'ai acheté un vélo elliptique.
Oui.
J'ai donné la à la maison.
Oui.
Pour essayer de me surveiller, surtout physiquement. Parce que j'étais à la maison. Confiné, c'est surtout par une personne qui est active, et puis j'ai la chance d'être de Béjaïa, C'est une ville, comment dirais-je, avec une côte.
Ah ouais.
Voilà.
Ah c'est ouais. Une belle côte. Il faut le dire, il faut le dire, voilà. Bien sûr. Ouais, ouais.
Voilà, et j'ai eu la chance de partir à la plage des fois, avant le couvre-feu à 17h et tout, ouais. Je faisais quelques footings avec, voilà, pour un petit renforcement des mollets, ouais. des articulations des chevilles et tout. Et puis, franchement, c'était dur. Franchement, c'était très dur pour nous.
J'ai une autre donc, question aussi, Aïcha. Comment vous avez préparé cette compétition?
Alors, comment on l'a préparé? Alors, c'était, sachant que c'est un nouveau groupe. C'est avec un effectif très jeune. Et on a pu essayer, ça fait une année. D'ailleurs, on a fait beaucoup de sélections, beaucoup de stages. Mais hélas, avec la Covid, encore une fois, il y avait quelques athlètes qui tombaient, qui étaient positifs. Du coup, il fallait arrêter les stages et de reprendre. Et vous savez, comme vous savez, pour un athlète, d'arrêter une semaine déjà, c'est beaucoup. Alors, deux semaines. Donc, voilà, c'est énorme.
Et vous avez eu des cas ou pas? Pendant ce...
On a eu des cas, oui. Même quand on a repris avec le club,
oui.
Avant une compétition, on faisait des tests et il y avait des cas quand même.
Et pendant votre stage, lors des Jeux méditerranéens, vous avez eu des cas?
Non, franchement, on n'a pas eu. Apparemment, d'après ce que j'ai lu récemment, il y avait une équipe de handball. Ils ne pouvaient pas jouer contre l'Égypte car ils étaient atteints de la Covid.
C'est la Slovaquie.
Voilà.
À déclarer forfait.
Voilà.
Aïcha, je reviens vers toi parce que je sens quand même, de par ton expérience, ton âge, ce qu'on appelle, cette frustration de ne pas avoir tout donné parce qu'il y a eu des freins à la fois qui sont liés à la Covid. Même quand, comme tu l'as dit, tu as fait de la préparation, mais l'aspect purement technique de ton sport, qui est le volet, tu n'as pas pu le pratiquer comme tu le souhaitais. C'est ça aussi qui était gênant.
Non, c'était gênant. Bon, frustré, non, mais je suis assez fière parce que de regrouper une équipe et d'essayer de reprendre tout à zéro. Parce que
c'est bah oui. Retard, hein, oui.
Voilà. Et avec un nouveau effectif, un nouveau staff aussi.
Ouais.
Et bon, on a fait quelques stages en étant en Tunisie, puis en Égypte. Malheureusement, on n'a pas pu partir dans un pays européen pour faire des stages, des matchs amicaux, car ils étaient en plein championnat et tout. Mais après, le niveau se diffère, bien sûr.
Ouais. Et justement, c'est parce que pendant deux ans, en plus de cette histoire de Covid, les clubs n'ont pas pu jouer. Donc forcément, vous arrivez à la compétition amoindrie par rapport aux équipes européennes qui sont bien affûtées. Hein.
Excusez-moi, mais les équipes européennes, ils ont arrêté pendant deux ans.
Oui.
Bon, c'est après la 2020-2021, mais après tout le monde a repris. Hein.
Oui, oui, absolument.
Aussi, hein. Oui. Voilà. Et l'Algérie, c'était les deux ans off.
Ouais, mais carrément off, c'est ça, hein. Avec deux F, hein. Il y a vraiment tout est fermé.
Aïcha, est-ce que vous avez repris le championnat ou bien non?
Oui, juste avant cette compétition. Ce mois de 2022, fin 2021. Voilà, c'était en mois de octobre.
Ouais.
Octobre-novembre, ouais.
Justement, tiens, Aïcha, je profite de l'occasion parce que j'ai tellement de questions qui me sortent comme ça de directement.
Allez-y,
ben oui, je me lâche. Hein. Attends, merci pour le mot. Lâchez-vous, je me lâche. Vous avez repris le championnat. On sait qu'en Algérie, le Mouloudia d'Alger domine tout parce que c'est le club phare déjà de par son sponsor major qui est Sonatrach. Quel est le niveau des autres clubs que vous rencontrez et est-ce que il vous manque un ou deux clubs d'un niveau élevé pour stimuler ce qu'on appelle la concurrence dans la compète, quoi, c'est ça?
Franchement, même avec notre fédération qui ont essayé de faire un tournoi des play-offs,
ouais.
pour avoir beaucoup de matchs
oui.
Par rapport à l'équipe nationale.
D'accord.
Mais effectivement, quelques clubs, hélas, n'ont pas les mêmes conditions comme nous.
Oui.
Comme le club de la NCA. Et que les mêmes heures de travail d'entraînement ne sont pas... On peut dire idem ou voilà par rapport à nous ça diffère énormément.
Quels sont aujourd'hui en dehors du Mouloudia bien sûr les clubs on va dire les deux trois clubs avec lesquels vous rivalisez à peu près pour qu'il y ait un niveau à peu près correct du volleyball en Algérie, Aïcha?
Alors, il y a le MBB Béjaïa.
Eh oui.
Voilà, il y a le MBB de Béjaïa, il y a le WAP, il y a beaucoup, franchement, il y a assez de clubs, surtout à Béjaïa, parce que c'est une école.
D'accord.
C'est une école de volley.
Bah, oui,
il y a beaucoup de clubs ici.
Très bien.
À part nous, ouais. Et un autre club de Ben Aknoun.
Oui, c'est vrai, j'ai entendu parler de Ben Aknoun. C'est vrai, j'ai oublié Ben Aknoun. C'est une bonne école de volley aussi. Oui, oui.
Maïcha, j'ai une autre question.
Oui.
Par ton expérience, par ton vécu, du moment que tu as vécu un peu partout en Algérie, que tu as voyagé, tu as affronté d'autres clubs et tu étais aussi, si je ne dis pas de bêtises, tu as évolué, tu avais une aventure avec le club d'Amiens en France.
Oui, j'étais sur Amiens.
Exactement. Amiens, et d'où, par ton expérience, par ton vécu, qu'est-ce qui manque au volleyball algérien pour qu'il puisse briller sur la scène internationale et nationale?
Alors, beaucoup de travail au niveau des clubs.
D'infrastructures.
Au niveau des équipes nationales, il faut former des athlètes. Un sélectionneur national, il doit arriver, trouver des athlètes qui sont déjà prêts physiquement, mentalement, d'affronter une équipe adverse qui est de taille. Et c'est le travail qui est au niveau des clubs. Voilà. Il ne faut pas attendre le stade de l'équipe nationale et de sélection pour évoluer.
Puisque tu avais signalé tout à l'heure que tu avais une aventure avec le club d'Amiens, selon toi, selon ton vécu, quelle est la différence entre tes entraînements à Amiens en France et ceux que tu as actuellement en Algérie ou que tu avais actuellement dans d'autres clubs en Algérie d'une manière générale?
Alors, c'était les entraînements tous les jours. Des fois, c'est des quotidiens.
Oui.
Et il n'y avait que ça. Il n'y avait que les entraînements. Il y avait beaucoup d'heures. Sachant qu'ici en Algérie, il faut savoir que avec le système éducatif, c'est pas évident. Là, par exemple, on avait quelques tâches pour quelques athlètes. Elles avaient des examens au niveau de l'université. C'était très, très, très chaud pour elles. Parce qu'il y avait des profs. Le recteur ne pouvait pas accepter. Il y avait déjà des profs qui n'acceptaient pas. Ils ne comprennent pas, en fait. Là, avec un justificatif de la CD ou bien du ministère, c'était assez chaud pour elle de s'absenter. Je pense que même avec justice, je pense que ils sont pas, comment dire, genre limite.
Oui.
Alors, vous acceptez les examens ou bien votre sport? Si vous voulez faire votre sport, alors. Voilà.
D'accord, ok. En gros,
faire un choix.
Il faut faire un choix, c'est ça.
On n'a pas la culture, voilà. Enfin, je ne généralise pas, bien sûr. Hein.
Oui. Nawel, vas-y, t'as une question.
Bonsoir, Aïcha. Bonsoir, Aïcha. Moi, j'ai une question. Donc, certes, il y a des difficultés par rapport aux examens, par rapport aux études, mais comment se passe une préparation physique pour une joueuse de volley en Algérie?
Alors, on commence toujours au mois d'août. Et on commence par d'être avec un préparateur physique, soit à la plage, soit dans une forêt. Et c'était... Bon, je vous parle avec mon club. Hein.
Oui, bien sûr.
Tous les jours à 9h du matin, parce que tout dépend des clubs. Voilà. Nous, on faisait ça à 9h du matin, dans une forêt, à Alger, Bouchaoui.
Oui.
C'est grand, c'est vaste.
On connaît.
Tous les athlètes, tous les athlètes sont là-bas. On fait des footings, la prépa, direct, là-bas. Physique.
Ah, ouais.
Pendant quelques semaines, 15 jours, on peut dire, et puis ce sera matin et physique, l'après-midi, le soir, c'était un peu technique, toucher de ballon et tout.
Bien sûr.
Et en général, la préparation physique, les entraînements débutent à quelle heure le matin et se terminent à quelle heure?
À 9h. Jusqu'à 11h30. Voilà. Et puis l'après-midi, c'est à partir de 18h jusqu'à 20h, comme ça.
Alors, donc, j'arrive à la pause pub, juste pour lui dire à Aïcha, bon, je vais te garder, tu vas rester un petit peu en ligne, il y a le temps de passer cette page de réclame. Juste pour dire également à mes collègues, j'aurais pu te rencontrer sur Amiens, parce que moi, ma première ville en France, c'était Amiens. J'ai toujours ma famille là-bas, c'est vrai que...
J'adore cette ville.
Voilà, non, je... Voilà, moi je suis d'Amiens et après je me suis établi à Rouen, donc c'est pas très loin non plus. Voilà. Tu restes avec nous en ligne, Aïcha, je te récupère dans un instant, ok?
Ok.
Très bien, à tout de suite.
Fou de sport, reviens dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Fou de sport. Sur Beurre FM.
Allez, avant d'accueillir Toufir Bourali, le président de Mzab Tour, pour parler de cette traversée entre Djanet et Timimoun et de tous les grands projets qui attendent, notamment dans le désert algérien, avec notamment ce concours de cerf-volant. Je tiens aussi à saluer Samia qui fait un boulot formidable ici à Paris. Elle n'a pas pu se libérer aujourd'hui pour cause de professionnelle, bien sûr. On va finir avec Aïcha depuis Béjaïa, depuis Maghouraïa. Alors Aïcha, il y a une question, mais vraiment, elle est spécifique aux femmes. Lorsqu'une femme sportive de haut niveau se marie et qu'elle enfante rapidement, est-ce qu'elle revient à la compétition ou bien elle abandonne tout et, comme on dit, salam alaikum? Allez.
Alors franchement,
oui.
Tout dépend des cas.
Très bien.
Mais nous, chez nous, on a une copine à moi.
Oui.
C'est mon aîné d'une année, 90, dans la salue. Oui. C'est la capitaine d'équipe. Qui est une grande joueuse de réception attaquante.
D'accord.
Elle est mariée et elle a un enfant. Et elle joue avec nous sur le Méditerranée.
D'accord.
Elle n'a jamais abandonné. Elle s'est prise en charge, même pendant sa grossesse.
Oui.
Elle venait en gymnase, elle faisait ses exercices, c'est beau. Et alhamdulillah, elle a eu un garçon, maintenant ouais. Elle a 8 ans, c'est bien.
En
compétition, il est présent avec son papa.
Et voilà, c'est ce qu'elle allait te dire, Aïcha. Merci beaucoup pour cette précision. Ça veut dire qu'elle a un mari en or.
Oui, elle a un mari en or qui a accepté, qui l'encourage, il a toujours encouragé à continuer, à l'aider pendant nos compétitions, même avec le club des championnats d'Afrique ou bien arabe.
Oui.
On partait en Tunisie, à chaque fois il venait, prenait un congé, il venait avec son enfant.
Bravo, il n'y a rien à dire.
Je pense qu'à un moment, il faut casser ses mentalités
Super. Et avancer. Hein. Je suis ravi d'entendre ça. Eh bien, je pense que sur ces bonnes paroles...
Tout dépend des
hommes. Oui, Aïcha. Mais c'est génial. Parce que, au moins, comme on dit chez nous, tu nous as franchement donné une satisfaction.
Avec l'exemple en titre.
Oui.
Parce que jusqu'à présent... Je vous ai dit, elle joue beaucoup dans l'équipe nationale avec notre club MCA d'Alger.
Oui.
C'est une très, très grande joueuse. Elle a fait des matchs magnifiques pendant cette compétition, mais malheureusement, c'est un sport collectif.
C'est vrai, oui.
Est-ce que vous avez...
Dernière question, Faudil, parce qu'après, on a encore d'autres interviews.
Ma question, est-ce que vous avez un staff technique ou un staff médical qui suit les grossesses et le retour en forme de l'athlète?
Non, on n'a pas ça. Elle est prise en charge. Elle a eu un enfant. Elle a son médecin. Elle a pris un préparateur physique. Et elle s'est préparée. Voilà. Non, on n'a pas ça. Oui, on a un staff médical magnifique au club ou bien l'équipe nationale. D'ailleurs, je salue. Et le staff médical aussi. Mais après ça, c'est beaucoup plus entre elle et son médecin.
Et Aïcha, avant de finir, j'ai une autre question concernant le jeu méditerranéen. Quel souvenir tu gardes et quelle était l'ambiance, l'organisation, quel est ton sentiment à l'égard de ces jeux méditerranéens malgré l'élimination et la déroute?
Organisation. Franchement, je ne m'y attendais pas trop à ça. Mais franchement, ils l'ont super géré, le comité olympique ou bien le comité des Jeux. Et même les Algériens, franchement, je ne m'y attendais pas à ça. Ils encourageaient chaque équipe, chaque pays.
Et au niveau de l'ambiance?
L'ambiance était géniale. Bah, tu connais les Algériens. Hein.
Même voilà. Face à l'Italie?
Et franchement, respecté. Ils étaient là, ils encourageaient tout le monde. Et ils suivaient. C'était un très, très beau. public et vous connaissez Oran aussi.
Aïcha, on te remercie beaucoup d'être intervenu et puis tu as été vraiment à cœur ouvert, tu as tout dit, c'était sans obstacle. Et puis on aura, Chana, le plaisir de t'avoir, pourquoi pas, si un jour tu viens ici et que tu veux revisiter Amiens, avec le plus grand plaisir.
Ok, super.
Merci.
Merci Aïcha.
Merci et bon courage.
Merci, au revoir.
Mais au revoir.
Voilà, magnifique. Franchement, là, je vous le dis tout de suite, c'est top, top, avec cette... avec Aïcha Mesmat. Franchement, j'ai été ravi.
Qui est ma cousine aussi.
Ouais, juste ta cousine. Bon, on a compris que c'était ta cousine. Bon, hein.
Plaisante.
Bah, attendons, hein. Le côté, hein, 1m87.
Oui. En format il. Oui.
Bah, en gros, t'as compris ce que je veux dire.
J'attaque une part.
Très bien. Alors, dans un instant, on va essayer d'avoir notre ami Toufiq Bourali pour parler justement de cette compétition. Enfin, c'est pas une compétition, c'est plus une découverte du Sahara algérien, mais surtout des villes mythiques comme Janet, comme Timimoun, Tamal Rasset.
C'est magique. C'est magique le désert.
Voilà. Et comme me l'a dit Samia, elle m'a dit, tu sais, Mohamed, quand tu viendras visiter le désert, tu ne voudras plus revenir. Non, non, j'ai quand même foot de sport à présenter et j'ai aussi toute mon équipe. Alors, si... ok, ben merci. Merci pour l'image. Puis ça nous fait plaisir également d'avoir comme ça dans cette émission des sportifs qui sont ouverts. Moi, je trouve que j'adore le milieu du sport. Parce qu'on a découvert à travers cette émission des boxeurs, des footballeurs, des handballeurs.
Des féminines surtout, et ben, surtout oui, des féminines, oui, hein, parce qu'il ne faut pas les laisser de côté.
Non, mais et grâce à nous, hein, ben, même dans le sport, dans le sport, dans le handisport par exemple, on a fait beaucoup de découvertes vraiment avec cette émission. Je me dis, mais.
Et tout sport confondu, hein.
Ah ouais. Ah, quand je vois quand même que cette émission depuis 2004, maintenant.
Que le mérite revient. Hein,
bah écoute, on fait de notre mieux. Et puis la preuve, la relève est ici, elle est assurée. Attends, je vous fais confiance. Alors peut-être que je te laisse me donner une ou deux infos mercato, le temps d'appeler mon collègue Toufir. Mon cher.
La première info, c'est la prolongation de Youssef Belaïli. La deuxième, c'est la signature de l'arrière gauche et défenseur à la fois de la sélection algérienne, Ahmed Touba, en Turquie. La troisième information, c'est peut-être Raïs Mboulé. Bon, pas peut-être, mais c'est Raïs Mboulé a résilié son contrat. Il est annoncé du côté de la Turquie ou du côté du Qatar. Et pour l'instant, et peut-être aussi le retour de Malik Asla à la JSK. Pour l'instant, ce n'est pas encore officiel, c'est toujours dans les tuyaux. Peut-être que ça sera son troisième retour au sein de la jeunesse sportive de la Kabylie.
Et est-ce que Ben Sebaïli du côté de Dortmund, ça a avancé un peu ou pas?
Pour l'instant, c'est toujours, selon la presse algérienne, c'est toujours en stand-by. Parce que Rami Ben Sebaïli est annoncé du côté de Manchester United.
Et il y a aussi une petite... Manchester
United, pour être soit la doublure ou le concurrent de Luke Shaw.
Okay. Et j'ajouterais Boulaya qui a plus de contrat. Qui a pied sans club.
Oui, c'est vrai, tu as raison, Sofiane, sur Farid Boulaya, oui, tout à fait.
Ouais, qui n'a pas de contrat, donc il se retrouve sans club, genre au chômage. Ouais.
Non, mais c'est incroyable, hein, ce type qui a été brillant en Ligue 1, on arrive comme ça, il n'y a pas de club.
Je te rappelle, Mohamed, dont on a parlé récemment, Sofiane n'était pas là, on a soulevé ce problème. Le problème du joueur algérien, c'est l'agent lui-même. Ouais. Les joueurs algériens ne sont pas bien entourés et malheureusement, ça pose problème parce que. Boulaya, c'est un joueur extrêmement technique, talentueux, qui va de l'avant avec un très 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 bon pied droit.
Ouais. Et quand c'est ce qu'avait dit Zinedine Farhat quand il avait directement accusé son manager de lui avoir bousillé son contrat.
Exactement.
Directement.
Quand on regarde des joueurs algériens, c'est toujours le même problème, que ce soit avec Ounes. Ounes, par exemple, c'est un excellent joueur. Et quand on le voit à Naples. Il joue même pas, je crois que c'est le troisième choix aux yeux de l'entraîneur. On se pose des questions. Et Boulaya, c'est presque la même histoire. Et
très bien.
Il va rebondir ailleurs.
Bon, alors on va aller sur le deuxième sujet. Donc c'est pas ici, autant pour moi.
Sur Beurre FM.
Et nous allons toujours en Algérie. Alors je ne sais pas dans quelle ville nous sommes, en tout cas je vais saluer. Toufiq Bourali, président de Mzabtoub. Bonsoir Toufiq, merci d'intervenir sur Beurre FM.
Merci, merci de m'avoir donné cette occasion de participer à vos émissions.
Bon, alors mon cher Toufir, dis-moi seulement dans quelle ville vous êtes actuellement.
Je suis à Tamanrasset.
Tamanrasset, Masha'Allah. Et bon, il est chez nous, il fait quelle heure là? 19h34. Quelle température fait-il à Tamanrasset à cette heure-ci, mon cher Toufir?
Donc là, c'est pour ça, parce que c'est la saison des pluies.
Ouais.
C'est passé le mois de juillet, août, septembre. C'est vraiment, c'est une très bonne saison. Même pour, on fait même des circuits sur les, à une altitude entre 1400, 1800 jusqu'à 3000 mètres d'altitude.
Ouais.
On a des sorties. On a beaucoup d'associations qui arrivent pendant les mois d'été, juillet, août, avec qui on travaille. Et puis ça, les gens ne savent pas que pendant l'été, on fait des circuits. Mais on est comblé par ce genre de programme. Alhamdoulilah, ça marche très bien.
Ouais. Alors, Toufir, je oui. pense que si je t'interpelle ce soir, c'est parce que tu nous concoctes un superbe programme. C'est vrai que les deux années de Covid ont tout fait arrêter. Et là, tu reviens sur le devant de la scène pour nous proposer un superbe programme pour la découverte du Sahara algérien, notamment des villes symboles comme Timimoun, comme Djanet, etc. Ou enfin, Tamanrasset, là où tu es actuellement.
Actuellement, on a toujours eu deux raids. C'est le raid des reines d'Algérie et le raid des femmes de l'Algérie.
Oui.
Un qui est conçu pour le mois de mars, pour le 8 mars, à l'occasion de la journée mondiale du tourisme, de la femme.
Oui.
Qui est au départ d'Alger jusqu'à Tamanrasset, 2000 km en passant par Timimoun.
Mmh.
C'est un super voyage que c'est 100% féminin.
Ben oui, je sais, on est interdit, nous.
Oui, vous avez déjà participé avec deux pilotes de Maintcom.
Ben oui, ben tiens, t'as même Wellesley qui rigole parce que elle va faire partie peut-être avec Samia.
J'étais.
J'espère
qu'elle
va faire surface.
Oui.
Bonsoir Toufir.
Bonsoir.
Franchement, j'ai fait le dernier rallye avec Samia, avec toute l'équipe, avec Helja. C'était vraiment magique. C'était une très très belle équipe et franchement que des très très belles découvertes. Et beaucoup de dons humanitaires aussi. Hein.
Ouais. Alors Toufir, avant ce raid des reines, puisque c'est réservé aux femmes, il y a quand même une autre découverte que tu nous prépares là pour octobre ou novembre, il me semble. Décris-nous un petit peu ce projet.
Avec la calme du niveau des frontières, toutes les frontières sont sécurisées.
Oui.
Maintenant, c'est la deuxième année. J'ai commencé l'année dernière, on a fait trois raids entre Pam et Djanet, ça fait 700 km de piste, un passage extraordinaire, des sites magnifiques. On fait les deux tassis, le tassis du Yoga et le tassis Nadjer.
D'accord.
Alors les gens arrivent à Tamanrasset, ils repartent par avion de Djanet avec moi pour traverser 700 et on fait un retour avec un deuxième groupe s'il est toujours possible.
Très bien.
Mais là, il y a une expérience de des grands espaces, de belles, de très beaux couchers de soleil, de lever. C'est vraiment, vous allez vivre en plein dans le désert avec une organisation, un équipement aussi très bien organisé. Alhamdoulilah, tout le monde est satisfait. On a de très belles vidéos sur notre chaîne YouTube.
Alors, le prochain, c'est pour à partir de quelle date tout faire?
C'est pour le mois d'octobre, c'est pour
dire. D'accord, donc ça nous laisse le temps de nous préparer, quoi, bien sûr.
Automatiquement.
Oui, absolument. Oui, on va se préparer.
Et puis, il est à la portée de tout le monde. Il y a même initiation à la conduite sur les dunes. Hein.
Ah, conduite sur les dunes. Bon, Sofiane, tu mets le casque, tu vas faire le rallye.
Non, parce qu'on a des grands chauffeurs chevronnés, des Touaregs.
D'accord.
Là, ils passent le volant de temps en temps. Parce que dans chaque voiture, il y a trois personnes, ça veut dire. Oui. Chaque personne a droit à une vitre.
D'accord. Ok. Bon, donc déjà, on a comme droit à toi, Eric.
Aux participants d'apprendre à conduire sur les dunes.
Bon. Donc, Toufir, tu restes avec moi en ligne, tu ne raccroches pas. J'ai une dernière réclame à faire passer. Il y en a pour deux minutes. Et je te récupère juste après, ok?
D'accord.
Ça marche, à tout de suite. Hein.
Fou de sport. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Fou de sport. Sur Beurre FM.
Allez, je récupère Toufir rapidement pour qu'il nous parle un petit peu de ce projet. Puis ensuite, on reviendra à partir de la rentrée avec plus d'émissions, plus de détails. Juste aujourd'hui pour vous mettre l'eau à la bouche. Alors, Toufir, comment le circuit va partir de quelle ville pour arriver à quelle ville?
C'est au départ en 4-4 ans, au départ de Tamanrasset. Les gens arrivent par avion.
D'accord.
l'accueil, puis on passe la première nuit pour la découverte de Thomas VII.
Oui.
On a des camions 4x4 Mercedes Cuisine pour le catering. On a tous les équipements. Alors, une vraie caravane.
Oui.
Il y a pas de chrono, mais pour que les gens puissent profiter de la beauté du désert, de tout ce qu'ils m'ont cité, que de faire de la course. On évite tous les accidents, tout ça, alhamdoulilah. Ouais. On est au 5e ou au 6e raid, et puis tout se passe à merveille. Il y a une prise en charge personnalisée de chaque voiture. Parce qu'il y a un chauffeur guide qui fait partie de du groupe. Il y a la quatrième personne, c'est le chauffeur, qui peut permettre aux participants de conduire de temps en temps, d'apprendre leurs apprendre comment conduire sur les dunes, parce que c'est un petit peu difficile.
Alors, Toufir, j'ai une question, parce que elle n'est pas du tout dans le contexte de la course, mais je sais que du côté de Taman Rasset, ou dans la partie dite désert, il existe une plante qui pousse comme ça durant cette saison, avec des couleurs vives et exceptionnelles, et on ne peut voir que dans cette région de Taman Rasset, hein, un peu violette.
Après la saison, depuis comme juillet, août,
oui,
on a toutes les montagnes qui sont couvertes de petites violettes, c'est magnifique.
Ah ben voilà, c'est ça qui me fait rêver. ouais, c'est ça qui me fait
le
rêver.
Rêve, il est à votre portée, le rêve. Hein. Alors, un billet, vous serez à ma tête.
D'accord. En tous les cas, Toufir, ça c'est vraiment un premier contact. C'est histoire vraiment de prendre la température de cette grande préparation de ce prochain raid. Donc, l'avion va atterrir à Taman Rasset. Ensuite, c'est le circuit, c'est Taman Rasset, Janet. On est bien d'accord.
Moi, et le retour de Janet.
D'accord. Et le retour par avion Janet Alger, c'est ça?
Et les places sont limitées. S'il y a un deuxième groupe important, on fait le retour, on aurait le retour de Janet sur femme.
Alors, combien de personnes doivent être inscrites au maximum?
On ne dépasse pas les 40 personnes.
D'accord, en fait, oui, parce que pour pouvoir
l'encadrement. L'encadrement.
Alors, encadrement plus concurrence, ça ne doit pas aller au-delà de 40 personnes.
Pas, parce que le désert n'accepte pas ce genre de... Parce que c'est des voitures de 4 personnes.
D'accord.
Et vous allez avoir plusieurs voitures, là, ça, au moins pour gérer ça de près.
D'accord. Ben, en tous les cas, le message...
On a une équipe de mécaniciens, on a tout ce qu'il faut pour...
Ah, oui, oui. Un médecin aussi.
Ben, oui,
un médecin sur place.
Ouais. Un médecin, oui. Ouais.
Non, mais c'est pour ça que là, Toufir, bientôt, quand il aura la possibilité d'être ici en France, il va rester avec nous là pendant 2 heures, il va nous expliquer un petit peu toute cette préparation. Aujourd'hui, je voulais l'avoir juste pour qu'il m'explique le retour de cette découverte, parce que pendant 2 ans, le Covid a tout empêché. Là, comme on dit, les frontières se sont réouvertes et on va enfin découvrir la beauté, les beautés du Sahara algérien. Merci de vous faire.
On a même aussi pour la prochaine émission, oui, un raid pour le mois de février 2023, oui, en VTT, la boucle de la Sekhem, 170 km. En VTT, ça se fait en VTT.
Très bien. Merci pour ton intervention, mon cher Toufir. Et puis, comme je te dis, on aura le plaisir de se retrouver rapidement sur les antennes de Beurre FM.
Merci.
Ok, avec plaisir. Au revoir. Voilà, donc, oui, ça s'enchaîne au fur et à mesure. Et puis maintenant, on va essayer d'avoir notre ami Sofiane Belhassan. Alors, je ne sais pas si Nawel peut se déplacer pour l'appeler. Hein, parce que on est vraiment dans ce qu'on appelle le short time. Hein, c'est limite. Je jongle avec tout le monde. Oui. Alors, vas-y, Nawel, fais un peu de sport. Voici. Alors, directement. Tu fais ça. Et voici, compose directement. Voilà. Et puis, dès que ça affiche, ça veut dire que la personne est à l'antenne. Notre président de Fédération algérienne du rugby, après cette première victoire face au Sénégal, je rappelle quand même que l'entraîneur algérien est un Sénégalais.
Voilà. C'est bien ?
Oui, oui. Ah oui, hein ?
C'est bien, il y a des Algériens dans les staffs techniques au Sénégal.
Oui, c'est vrai, t'as raison, c'est bien de le
faire. Voilà, c'est des échanges, ça fait plaisir.
Ouais,
la compétence, elle est partout, elle est reconnue, on l'apprend.
Ouais. Bah voilà. Oui. C'est bien aujourd'hui de reconnaître la compétence des uns et des autres comme ça.
C'est ça.
Ouais, très bien.
Et de mettre en valeur aussi.
Bien sûr.
Et de mettre en valeur le rugby algérien.
Ouais. Non, c'est, d'ailleurs, j'ai eu tout à l'heure Sofiane qui m'expliquait que contre le Kenya, ce sera très, très, très difficile, hein, puisque... C'est une vraie nation de rugby.
De rugby.
Voilà. Voilà, donc effectivement, on est en train de parler avec Sofiane. Alors ensuite, je suis en train de regarder. Alors notre ami Souhil, bon, normalement, il a attiré. Hein, alors, est-ce qu'il a quitté Ok, c'est bon. Merci, Nawel. Puisque, allez, on va y aller sans plus tarder. on fait comme ça, regarde, voilà, et hop, nous avons avec nous le président de la Fédération Algérienne de Rugby, Sofiane Belhassen. Bonsoir, je sais que c'est très vite, c'est très rapide. D'abord, bravo, félicitations pour les garçons et cette première victoire face au Sénégal. Mais il y a un gros morceau en demi-finale qui s'appelle le Kenya.
Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à Beurre FM, vous me suivez depuis 2016.
Donc... Eh oui.
Donc, c'est un plaisir de répondre à vos questions.
Ouais.
Oui, pour Kenya, c'est un très gros. Hein. C'est après l'Afrique du Sud, la Namibie, c'est le troisième Africain.
Ah, quand même. Ah oui.
Bien sûr. Et même si on ne compte pas l'Afrique du Sud, c'est le deuxième Africain, quoi.
Ouais. D'accord.
Donc, ça va être un très gros. Ils ont mis 40 points à l'Ouganda. Nous, on va vite récupérer. Là, pour l'instant, c'est les soins, les ostéopathes qui y est. Après, on a eu des blessés. Voilà. Ectosétrique a une commotion. Bachazi qui a un acheville tendu. Mais, on va essayer de relever le défi. Rien n'est impossible avec les Algériens.
Ça, on le sait, mon cher Sofiane. Et une question un petit peu. Qui est en rapport justement avec cette sélection. La plupart, on sait, sont issus des différents championnats français. Vous arrivez à convaincre de plus en plus de joueurs pour rejoindre la sélection algérienne. Et puis, peut-être, je ne sais pas, moi, je pose la question, si aujourd'hui, on n'a pas, peut-être pas encore le niveau pour atteindre les grandes nations, les A, est-ce que au niveau du board international, on réfléchit à une compétition intermédiaire pour permettre à des nations comme vous, le Maroc ou la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, à participer à, passe-moi l'expression, une Coupe du Monde un peu bis pour encourager le rugby.
Pour ça, c'est au niveau international.
Oui, c'est ça, absolument.
Là, bon.
Ouais.
Pour faire une Coupe du Monde B, c'est lorsqu'on est à deux matchs d'une Coupe du Monde A.
Ouais, je te dis ça, c'est parce que je prévois un plan B si jamais on n'y arrive pas en A.
Oui, après, bon, si on y arrive pas, je sais que les compétitions en Afrique, on a très peu.
Ouais.
Voilà, au niveau international, bien sûr, les prochaines compétitions de 2025.
Sofiane, bouge un peu parce que je t'entends mal, s'il te plaît.
Oui, là tu m'entends ?
Ouais, ça c'est mieux là, ouais.
J'ai dit, les compétitions pour la Confédération africaine de rugby, ça sera en 2025. À
oui.
Après, c'est vrai que ça manque de compétition. Mais bon, nous on fait avec. Hein. De toute façon, pour libérer nos joueurs, c'est très difficile.
Oui.
Malgré qu'il y a des fenêtres internationales, c'est très difficile. C'est un combat avec les clubs. Et c'est vrai que ça serait bien, mais bon, si on peut
faire ouais. Après, les joueurs, je sais que les joueurs ont des engagements avec leur club, c'est normal, mais déjà, le fait de profiter de la saison estivale pour déjà faire ce regroupement, ramener les joueurs, Marseille, c'est un petit peu comme Babeloua de chez nous, donc tu vois, c'est même pour les garçons, l'ambiance est aussi elle est importante.
Oui, bien sûr, c'est pas facile, c'est toute une salle de 50 personnes pendant 3 semaines.
Oui.
Ça demande des moyens humains et matériels importants. Et les bougies, c'est quand même des employeurs. Donc ils font toujours la grimace.
Ouais.
Mais quand c'est pour libérer des joueurs pour le Portugal ou l'Espagne, ils font pas la grimace.
D'accord. Ah oui. Ah, voilà, quand même, faut le dire. Voilà, à Beurre FM, on le dit et on le dénonce.
Bien sûr, bien sûr.
Bien sûr. D'accord avec toi, Sofiane.
Nous, on va essayer de gagner encore le Kenya parce que, quand même, on représente une partie de l'Afrique.
Oui.
Il faut savoir que maintenant, on est dans le Qatar africain. Et on est le seul pays, en gros, francophone. Il n'y a que des pays anglophones.
C'est ce que j'ai constaté.
Voilà, donc on va essayer de représenter l'Algérie plus encore. Et on va essayer de jouer chez nous à Marseille, au Stade de l'Or, à côté du Vélodrome.
Oui.
Voilà, on va essayer de gagner.
À la maison. Alors, c'est pour quand le match contre le Kenya
C'est le 6 à 18h.
Quand
mercredi 6 à 18h.
D'accord, très bien.
Et ça sera retransmis quelque part,
hein? Oui, Canal Plus décalé.
Ah, ben, voilà. Bonne nouvelle.
Ouais, c'est une bonne nouvelle.
Merci Noël pour la question, parce que j'ai pas pensé à la télé, parce que je me dis, bon, c'est des nations africaines, mais non, quand même, Canal s'est intéressé.
J'ai passé à la télé le match deux jours.
D'accord.
Et les prochains matchs, quels sont les prochains matchs à part le Kenya qui sont prévus?
Il y a l'autre demi-finale qui est Zimbabwe-Namibie.
Oui.
Et après, il y a les matchs de classement.
D'accord. Ah oui, après ça, excuse-moi Sofiane de te couper comme ça rapidement, ça veut dire que après Algérie, Kenya et Namibie, Zimbabwe, il y aura des matchs de classement alors.
Voilà, c'est ça. Soit tu te qualifies en finale, soit tu joues pour la troisième place.
D'accord. Et combien de nations africaines vont, mis à part l'Afrique du Sud, vont rejoindre les autres groupes pour la Coupe du Monde en France?
Bah, le vainqueur de la Coupe d'Afrique ira dans la Coupe de la France.
Ouais.
Et les All Blacks. Et le finaliste fera un tour d'Europe-Échange au mois de octobre-novembre, je crois.
D'accord. Ça veut dire que éventuellement, vous pouvez vous retrouver dans une espèce d'Europe-Échange au cas où. On ne sait jamais.
Voilà, c'est un tour des finalistes. Oui.
D'accord. Ah, c'est très intéressant. Eh bien, écoute, Sofiane, je vais te libérer parce que je voulais avoir ces moments avec toi. Je voulais mettre également en lumière ce tournoi final qui se joue en France pour cette Coupe du Monde prévue en 2024 en France. Franchement, merci. Et puis, franchement, passe le bonjour aux garçons parce qu'on connaît la plupart des joueurs et puis qu'ils nous donnent un peu de plaisir, un peu de bonheur.
Merci beaucoup pour votre soutien.
Merci beaucoup, Sofiane.
Merci,
Nawel. Merci, Sofiane. Bonne soirée.
Au revoir. Voilà, effectivement, Sofiane Belhassen, président de la Fédération algérienne de rugby.
Que nous suivons depuis pas mal d'années.
C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Voilà. Il le sait que nous avons été les pionniers dans le soutien du rugby algérien, parce qu'il y a quand même, il faut le dire aujourd'hui, il y a quand même en Algérie, il faut le reconnaître, l'ouverture aussi des codes du rugby, c'est principalement sur deux pôles, Est-Ouest. Est, c'est Amsila, Ouest, c'est à Oran.
Oui.
D'ailleurs, le stade oranais est connu pour ça, puisque Sofiane en parle. Et puis, non, mais c'est intéressant quand même. Je vous assure que moi, je suis très, très content d'avoir fait autant de sujets aujourd'hui. Et je me suis dit qu'au fond, voilà, il nous a manqué notre ami Souhil, qui n'est pas... Alors, mon cher Souhil, je suppose que tu n'es pas sorti de la douane, puisque malheureusement, le temps qui m'était imparti arrive à son terme, et puis coach également. Eh bien, figurez-vous, depuis la chanson, eh bien, coach n'était pas connecté. Pourtant, avec l'échange qu'on a eu tous les deux, on s'était mis d'accord, d'ailleurs. Il m'a même fait un signe comme ça, super. Je dis, voilà, 18h30, ok. Et depuis, regardez, entre 18h30 où j'ai le pouce vers le haut et 18h42, aucune connexion et il est 19h54. merci. Vas-y.
Si tu veux, je viens tout juste de voir le dernier tableau de la mise à jour des
voilà,
jeux.
Voilà, tu as une minute devant toi, il n'y a pas de souci.
La Turquie est en tête avec 89 médailles, 39 en or, 22 en argent, 28 en bronze. L'Italie est deuxième avec 114 médailles. L'Algérie est troisième avec 42 médailles. La France est quatrième avec 65 médailles. L'Égypte est cinquième avec 40 médailles. La Tunisie dixième et le Maroc quinzième.
Très bien.
Et pour rappel, le classement se fait en fonction des médailles remportées en médailles d'argent et en or aussi.
Ouais, mais en premier, d'abord c'est l'or.
Oui, voilà.
Toujours, là, oui. On prend d'abord le classement en médailles d'or. Hein, on est d'accord. Hein. Très bien. Bah, merci, Vodil. Merci, Noël. Et puis, Sofiane, pour le retour.
Voilà.
Je vous rappelle quand même que nous ne sommes pas en vacances. Mis à part le dimanche de l'Aïd, qui est bien dimanche prochain, donc le 10. Il y aura d'autres émissions après. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous dimanche prochain sur les antennes de Beurre FM, 18h-20h.